De l'autre côté de la musique, une émission proposée et présentée par Michel Giardella qui s'intéresse à la grande musique mais toujours dans un contexte thématique. C'est ainsi que nous allons aujourd'hui poursuivre un voyage tout en onirisme, si je puis me permettre. Michel, bonjour.
Bonjour.
À travers effectivement ce thème qui inspirait bon nombre de compositeurs, compositrices, de l'aube à l'aurore.
À l'aurore.
Deuxième partie donc, puisque les réserves sont encore bien constituées,
bien riches, oui.
Bien riches, pour offrir de belles perspectives en ce sens. Effectivement, tous ces moments un petit peu, comment dire, privilégiés du matin, oui, ou du soir, qui ont donné beaucoup de ressources aux compositeurs.
Voilà. Alors, je vous propose quelques compositeurs qui ont abordé ce thème. Mondonville, Schubert, Ravel, bien sûr, Respighi, et nous finirons sur Richard Strauss. Alors, premier compositeur, Mondonville. Alors là, nous sommes dans une histoire, une guerre, la guerre des bouffons. À Paris, donc, les Italiens sont là, protégés par la reine, Marie Leszczynska, la femme du roi, hein, la reine. Et un autre clan s'est formé, ceux qui sont pour qu'on chante en français, pour la poésie française mise en musique, c'est le clan de Madame de Pompadour et de Louis XV. Les deux clans sont prêts à s'affronter. Alors on appelle ça la guerre des bouffons parce que les chanteurs et les troupes, la troupe italienne s'appelait i buffoni. Et donc c'était la guerre des bouffons. Bien sûr, toute l'intelligentsia de l'époque prit parti. Et Jean-Jacques Rousseau, le premier, il disait que la langue française n'est pas faite bien, pas terriblement faite pour la mélodie, l'italien chante mieux que le français. Enfin, ce fut important, et un opéra de Mondonville, Titon et l'Aurore, bien sûr, nous voilà avec l'Aurore, l'Aurore symbole de l'Antiquité qui arrive avec son char et qui éclaire la nuit. Donc une histoire antique un peu compliquée, mais qui est chantée en français. Et ce fut un moment de farouche bataille. La première représentation de cet opéra de Mondonville fut considérée comme décisive dans la guerre des bouffons. De part et d'autre, on se prépara pour se tenir vaillamment les intérêts de l'une et de l'autre musique. Le jour de cette exhibition solennelle, les chevaux légers, les gendarmes, les mousquetaires, les carabiniers remplissaient le parterre de l'opéra. Les partisans des Italiens, nommés le coin de la reine, furent refoulés hors de la salle et ils ne purent trouver place que dans les corridors. Grâce à de telles précautions, Titon et l'Aurore réussissent convenablement. Donc, ce fut un triomphe. Le roi, qui était à ce moment-là, a choisi, se faisait envoyer des messagers tous les quarts d'heure pour savoir comment ça se passait, mais il avait fait ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Après ce spectacle, après ce triomphe un peu militaire, ce triomphe de la musique française chantée en français, on chassa les Italiens. Le lendemain, les Italiens durent quitter Paris. Donc c'était une victoire, et cette œuvre fut donnée quand même 35 fois. Donc elle avait des qualités, et Mondonville est un musicien remarquable. Il a écrit d'extraordinaires motets dont on a des enregistrements qui sont très 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 bien faits. C'était un musicien de qualité. À travers quand même ce conflit, qu'est-ce qui s'est dessiné ? Eh bien, il s'est dessiné que quand même on pouvait chanter en français, et cela, bon, quand même a eu des conséquences, hein, puisque Berlioz écrira des opéras en français, Bizet, à Lévis, et jusqu'à à Debussy, quand il écrivit Péléas et Mélisande. Donc, je veux dire, il y a toute une tradition qui est née de ce conflit, c'est-à-dire chanter en français. Voilà, alors je vous propose trois petits extraits de cet opéra, qui un peu vieilli quand même, mais enfin c'est quand même intéressant pour justement cette espèce de borne qui a été posée sur le chant en français.
Et qui est toujours d'actualité, quelles que soient aussi les esthétiques de musique, oui, on se rend compte, oui, à l'heure actuelle.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui. C'est toujours quelque chose de vivant. Hein. La langue est quand même importante dans la musique.
Voilà. À l'instant, c'était Monde en ville, Titon et l'Aurore, une première proposition de Michel pour De l'aube à l'aurore, le thème retenu cette émission. Alors, on parle d'opéra, mais ce n'est pas réellement un opéra,
non,
Michel.
Non, on appelle ça une pastorale héroïque. Ah. Alors, c'est un petit peu différent, mais c'était quelque chose à la mode à l'époque. En fait, ce qui est important, c'est qu'elle était chantée en français et jouée à l'opéra. Voilà. Hein. Maintenant, enfin, bon, on change complètement de pays, on change complètement d'époque. On arrive au matin, on arrive à Schubert, un leader de Schubert, extrait de son recueil, La Belle Meunière. La Belle Meunière, il a écrit que, bon, on connaît à peu près 600 leaders de Schubert, mais il a écrit que, officiellement que deux recueils, hein, Le Voyage d'hiver, qui est peut-être son plus beau recueil, et un autre aussi beau, c'est La Belle Meunière. Alors, dans ces deux recueils, il y a quelque chose qui est toujours surprenant, c'est le voyage. Le voyage d'hiver, le voyage d'homme qui part le matin à l'aube et qui salue la personne qui est à la fenêtre. Voilà, je vous lis rapidement un peu le texte. « Salut du matin. Bonjour, belle meunière. Pourquoi, en hâte, sous tes volets, cacher ton âme altière? Juges-tu mon salut hardi? Mon regard de peur t'a-t-il engourdi en route pour mes forêts? Oh, laisse-moi rester au loin, à ta fenêtre porter mes soins, de loin derrière les voiles, aux blondes mines dont l'accueil paraît à mes yeux sur ton seuil, du matin semble l'étoile. » Paupières dans le sommeil immergé, ta fleur est chargée par la rosée. Pourquoi le soleil éclaire la nuit vous révèle bien, dans vos pleurs, votre joie mille rien, quel jour plus vous ferez plaire? Secoue ce rêve du matin et fais sonner ton rire argentin, au crépuscule charmant, l'alouette vole dans les airs et crine à notre humaine chair d'amour les doux tourments.
Guten Morgen, schöne Müllerin, wo steckst du gleich das Köpfchen hin? Als wär dir was geschehen. Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer? Verstört dich denn mein Blick so sehr? So muss ich wieder gehen. Nach deinem lieben Fenster sehn, von ferne, ganz von ferne. Du blondes Köpfchen, komm hervor, hervor aus eurem runden Tor. Ihr blondes Morgensterne, ihr blauen Morgensterne, ihr Morgensterne. Ihr schlummertrunknen Äugelein, ihr taumeltrübten Blümelein, was scheuet ihr die Sonne? Hat es die Nacht so gut gemeint, dass ihr euch schließt und bückt und weint? Nach ihr Träume flor und hebt euch frisch und frei empor in Gottes hellen Morgen. Die Lerche wirbelt in der Luft und aus dem tiefen Herzen. Die Lieder
quelques notions du matin avec un délicat leader composé par Schubert.
Bien sûr, moment émouvant comme sait faire Schubert. Voilà, alors maintenant nous abandonnons ce romantisme allemand et nous allons en France. Nous allons à l'événement du début du XXe siècle qui était quand même les ballets russes. Puisque les ballets russes, on leur doit plein de choses extraordinaires. On leur doit le Sacre du Printemps, Petrouchka, l'Oiseau de Feu de Stravinsky. Et on leur doit aussi Maurice Ravel, Daphnis et Chloé. C'est aussi encore une histoire d'antiquité. Et c'est le morceau le plus long qu'a écrit Ravel. Il écrivait des œuvres plus courtes en général. Et c'est une histoire qui se passe en Grèce, bien sûr. C'est l'histoire du berger Daphnis et son amour pour Chloé. L'enlèvement de cette dernière par les pirates et l'intervention du dieu Pan pour la fin heureuse. Tout est bien qui finit bien. Mais Ravel était quand même avait le génie de l'orchestration. Et le dernier épisode s'ouvre sur le célèbre lever du jour dont les raffinements sonores suggèrent que tout ce qui se déploie ici, c'est moins l'émoi amoureux des deux protagonistes que la musique accédant à son indépendance faite de couleurs et de timbres. C'est un vaste crescendo où sont conciliés éclatements sonores et thématismes majestueux. Un fond de cascades tournoyantes de bois à l'unisson en double croche, avec un premier plan de longue tenue lyrique des cordes qu'on peut considérer comme le sommet de l'art orchestral du compositeur. Voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Donc je vous propose le lever du jour de la troisième partie de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel.
Daftis est cloué par Maurice Ravel pour la thématique de l'aube à l'aurore, de l'autre côté de la musique, présentée par Michel Giardella. Maurice Ravel qui aurait, a priori, son pendant italien, Michel.
Voilà, il a un autre compositeur un italien Molaghi. Qui est aussi un très brillant orchestrateur. C'est Ottorino Respighi. Et Ottorino Respighi est surtout connu pour un triptyque qu'il a écrit, qui est très très beau, merveilleusement orchestré, qui s'appelle « Les pins de Rome »,« Les fontaines de Rome » et « Les fêtes romaines ». Chaque fois, c'est quatre petits paysages décrits merveilleusement par l'orchestre. Et dans ces fontaines de Rome, il y en a une, ça se passe à l'aube. Un troupeau de moutons passe à l'aube devant cette fontaine et le compositeur en a profité devant cette émotion que cela a dû lui provoquer pour nous écrire une ambiance pastorale à ce troupeau de bêtes qui passe tranquillement. Ça a été créé en 1917 à Rome. Voilà, je vous propose la fontaine de la Valle Giulia à l'aube.
Très expressif, cette fontaine de la vallée Giulia à l'aube par Respighi.
Ottorino Respighi.
Compositeur italien qui, à l'instar de Maurice Ravel, donne aussi de très belles envolées musicales, de belles orchestrations.
De très très belles orchestrations, d'un brillant orchestrateur. Hein.
Poursuivons, si vous le voulez bien, Michel, toujours de l'aube à l'aurore avec d'autres esthétiques dans la musique classique.
Nous changeons complètement de cadre, nous allons vers Richard Strauss. Richard Strauss était un compositeur allemand, chef d'orchestre, qui était né à Munich en 1864 et qui est mort en 1949. Donc il a traversé des époques orageuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa relation avec le nazisme a été un peu ambiguë, mais enfin bon, il a traversé quand même cette histoire-là. Et c'est un orchestrateur lui aussi hors pair. Et il a écrit un peu de musique de chambre, mais elle est peu jouée. Ce qu'il a surtout écrit, c'est des mélodies pour piano et chant. Et c'est surtout deux caractéristiques typiques de Richard Strauss, c'est les opéras. Il a écrit trois grands opéras, Salomé, Electra et Le Chevalier à la Rose. Et de nombreux poèmes symphoniques qui sont très très beaux, ainsi par les Zarathoustra, Mort et Transfiguration, Till des Plaigues et Don Juan. C'est ses quatre principaux poèmes symphoniques. Donc, et qui sont un témoignage d'une virtuosité orchestrale extraordinaire. Mais Strauss avait une particularité, il était un homme féru de montagne. Il acquit en 1908 une villa à Garmisch dans les Alpes bavaroises où il vécut jusqu'à sa mort. Et il a écrit une symphonie, c'est la symphonie alpestre, très descriptive comme la sept les sous-titres des différentes parties. On peut y entendre l'appel des cors alpins, différents oiseaux, au vent, les flots tumultueux des torrents, etc., etc. Tout est chronologiquement se suit au cours de l'expédition en montagne. Alors, cette expédition en montagne, bien sûr, se déroule à l'aube. Hein, le musicien part en balade à l'aube et assiste au lever du soleil sur la montagne. Alors, attention, il a utilisé des aérophones, instruments particuliers qui permet de tenir en prolongation très longtemps une note.
Comme le souffle continu.
Voilà, comme si ça s'arrêtait jamais. Il a également, en plus du pupitre et des vents de l'orchestre, une fanfare séparée, hein, l'orchestration c'est pas rien, avec 12 corps. Voilà, c'est rare quand on met autant de corps dans un orchestre. Mmh. Son Mahler, dans ses grandes symphonies, il en mettait 8, lui. Bon, là, il en a mis 12. La symphonie est jouée la 22 parties, elle est jouée en une fois, elle n'a pas de coupure, c'est-à-dire il n'y a pas de premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement. Elle est presque plus proche d'un poème symphonique, mais il l'a appelée Symphonie des Alpestres, Symphonie des Alpes. Voilà, donc je vous propose d'écouter ce morceau avec tous les bruits de la montagne, les cors et les appels de cors. Voilà.
Richard Strauss.
Richard Strauss.
avez retenu, Michel, cette plage Alpen Symphonie de Richard Strauss, avec tout ce côté massif de corps hein, qui fait, donne un peu l'esthétique des Alpes.
Des Alpes, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
De l'aube à l'aurore se termine pour aujourd'hui. C'était la seconde partie avec toujours des compositeurs inspirés hein, par ces notions de lever,
de soleil,
et coucher, de soleil.
Voilà.
Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à refaire un tour pour redécouvrir ces différents compositeurs, Mondeville, Schubert, Ravel, Respighi ou encore Richard Strauss. Et la première partie consacrée à d'autres compositeurs que nous avons pu parcourir, comme Grieg, puis tous ceux aussi qui ont effectivement une trame de composition dans la tête liée un peu aux événements, qu'il s'agisse d'événements, de météo, encore beaucoup d'autres choses qui inspirent les compositeurs. Merci beaucoup Michel.
Voilà.
Avec plaisir de vous retrouver pour une prochaine thématique de l'autre côté de la musique.
Voilà. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.